Erreur est humaine. Franchement, cette phrase, l'erreur est humaine, est-elle compatible à la vie du croyant chrétien? Le croyant chrétien peut-il dire ou se glorifier en utilisant cette phrase, l'erreur est humaine? D'après les Écritures saintes, c'est-à-dire la parole de Dieu, Jésus-Christ, la parole vivante, le croyant chrétien, il est bien dit croyant chrétien et non pas le chrétien tout court, ne peut se glorifier ou chercher à se cacher derrière cette phrase. 1 Jean 1, versets 1 à 5. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Le païen, le non-croyant, celui qui n'a pas entendu la bonne nouvelle ou qui n'a pas cru, lui peut dire cela. Il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas Jésus-Christ, il ne vit pas Christ, il est dépourvu de l'esprit de vérité qui est un esprit de Dieu. Le païen est aveugle, il est ignorant des choses de Dieu saint, il ne sait pas où il va, il est conduit par le monde, l'autre aveugle. Matthieu 15, 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. L'aveugle se glorifie par cette phrase. Il trouve son alibi dans cette phrase. Il vit dans l'obscurité. Il vit dans le néant et vide. Dans le noir, tout est caché. Il n'y a rien qui existe. C'est la lumière qui fait exister ce qui n'existe pas. C'est la lumière qui éclaire et qui fait voir les choses qui étaient cachées par l'obscurité. Il n'entend pas, il est comme un mort. Un mort n'entend pas et ne voit pas. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Un croyant chrétien, attention, il n'est pas dit chrétien tout court, car il existe des croyants chrétiens et des chrétiens. Ici, il est dit, le croyant chrétien. Le croyant chrétien, c'est celui qui porte la lumière, qui porte Christ, la parole de Dieu en lui. Acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Il entend et voit. Après avoir entendu et vu, il fait un choix. Il prend un engagement. Il sait quel chemin prendre. Il sait d'où il vient et où il va. Le Jésus-Christ savait d'où il venait et où il allait. C'est pour cela, Dieu est patient pour les enfants. Ésaïe 7, versets 15 et 16. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Mais devant l'homme adulte, Dieu place les deux chemins. Le chemin du bien est son roi, et le chemin du mal est son roi. Et demande à l'adulte qui sait distinguer le bien et mal de faire son choix. Mais comme vous le savez, il est bon notre Dieu. Il facilite la tâche à l'homme adulte en lui donnant des conseils pour choisir. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il faut annoncer la bonne nouvelle pour permettre à l'adulte de faire son choix. Matthieu 16, 15 et 16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans cette démarche, le croyant fait le choix et prend ensuite l'engagement de porter et prête le serment d'obéir à la doctrine du roi de bien. La doctrine qui est définie dans la loi royale et ses ordonnances données par le roi du bien. C'est donc cette loi royale qui montre le chemin qui conduit vers la cité royale. Cette loi royale incarne le roi lui-même. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et le Père de Jésus-Christ, Dieu l'Éternel, confirme toutes ces choses. Matthieu 17, versets 5 à 8. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le !» Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur !» Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Maintenant, écoutons quelques passages où le roi donne la précision sur comment emprunter ce chemin. Jean 14, versets 8 à 10. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jacques 2, 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Jacques 1, versets 22, 25 et verset 27. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Jean 13, 15 et 17. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Frères et sœurs en Christ, comment un croyant chrétien peut encore dire que l'erreur est humaine? Quelle excuse cherche-t-il encore? Quel alibi cherche-t-il pour justifier son péché? Jean 15, 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Non, il a entendu, il a vu, il a contemplé, il a touché de ses mains. Il n'y a plus d'alibi. Oui, tu diras certainement, je n'étais pas né à l'époque où Jésus-Christ marchait sur cette terre des mortels. Par le témoignage de ceux qui ont marché avec lui, qui ont partagé le repas avec lui, ils ont écrit ces choses pour toi. 1 Jean 1, versets 3 et 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. Et le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, d'enrichir ces passages en ces termes. Jean 20, verset 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu qui demeure en toi, croyant chrétien, confirme ces choses. Jean 16, 13 à 15. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Marc 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc pour le croyant chrétien, cette phrase « l'erreur est humaine » ne doit pas avoir existence dans son langage, ni dans son expression, c'est-à-dire dans sa conscience, sa pensée et son cœur. Il est délivré de ce péché, de « l'erreur est humaine ». Car sa conscience, sa pensée et son cœur, bref, tout son être est offert à Dieu par Jésus-Christ, comme une offrande et un culte agréable à Dieu. C'est cela le combat sur cette terre que doit mener le croyant chrétien, qui est de dominer le mal, l'erreur. Il ne faut pas dire que le croyant chrétien est arrivé à la perfection, mais il n'est pas dit non plus qu'il est imparfait. Il faut plutôt dire qu'il est en route vers la perfection et sainteté. Le croyant chrétien est en construction. Étant en route vers la perfection, la sainteté et en construction, il ne peut plus se glorifier par « l'erreur est humaine ». Psaume 8, versets 7 à 10. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le croyant chrétien doit dominer, doit résister sur toute tentation, toute erreur. Il ne doit pas se laisser entraîner dans le péché pour dire ou se glorifier par l'erreur est humaine. Il doit saisir les bonnes choses que Dieu par Jésus-Christ a préparées pour ses enfants. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Par Jésus-Christ, Dieu fait connaître ces choses. Jean 17, 3 à 7. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En tant que disciple et serviteur de Jésus-Christ, ces choses ne sont pas étrangères. Jean 15, versets 14 et 15. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le croyant chrétien a entendu la bonne nouvelle. Il a cru à cette bonne nouvelle. Suite à toutes ces choses, il a pris un engagement. Il a prêté le serment de la fidélité à celui qui incarne cette bonne nouvelle par sa loi dite la loi royale. Il ne peut plus chercher à se cacher sur cet alibi. Erreur est humaine. Plus d'excuses. Jean 15, versets 22 et 23. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me haït, haït aussi mon Père. Cette phrase est bannie dans le langage spirituel, langage de la vérité, le langage qu'on utilise dans le monde de Jésus et son Père. 1 Corinthiens 2, versets 2 à 16. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Cette phrase est le langage de la doctrine du monde. La vérité du monde est contraire à la vérité de Dieu, comme aussi l'amour du monde est contraire à l'amour de Dieu. Par son amour, Dieu dit, prenons Hébreux 8, 12, « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Mais le monde, par son amour, dit ceci, « Cet homme ou cette femme m'a fait des choses horribles. Je lui ai pardonné, mais je n'oublie pas ce qu'il m'a fait. » Franchement, entre nous, est-ce qu'il a réellement pardonné à ce frère ou à cette sœur? Non. Il a toujours une dent dans son cœur contre cette personne. C'est pour cela le monde, par sa doctrine et conception de la vie, est l'ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Frères et sœurs en Christ, veillons. à bien méditer cela en nous examinant sincèrement. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et repentons-nous par l'abandon de toutes ces choses, afin de nous rapprocher de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mettons-nous en route vers la perfection et la sainteté. Construisons en plantant la vie de Jésus-Christ en nous. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. En retenant en nous cette conscience, cette pensée et ce cœur qui nous a été donné par Jésus-Christ pour la gloire de notre Dieu. C'est une couronne qui nous est réservée au jour de l'avènement de notre frère et Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Exode 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrie, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent ?» Marchons, oui, marchons, continuez à grimper la montagne de Sion. Genèse 17, 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Genèse 19, verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. » De peur que tu ne périsses. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà pour cet enseignement, frères et sœurs. Que le Dieu Tout-Puissant par Jésus-Christ vous assiste et vous fortifie. Gloire à Dieu.